Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous êtes suffisamment assommé comme ça?
Est-ce que vous pouvez développer quand vous avez dit que dans l'éducation, il fallait s'adresser plus à l'intelligence de l'enfant qu'à sa volonté?
Oui, s'adresser à la volonté de l'enfant, c'est mobiliser sa, ses facultés spirituelles, par exemple, pour réaliser quelque chose. Et c'est important, parce que l'enfant a besoin de réaliser quelque chose. Mais s'adresser à son intelligence, c'est d'abord développer en lui la capacité de contemplation. C'est-à-dire, justement, de lui faire découvrir que le monde ne commence pas avec lui, et que le monde a une réalité, que l'intelligence est comme une fenêtre qui nous est donnée pour appréhender l'ensemble de la réalité dans toute sa complexité. Et qu'il est inutile de vouloir tout réduire à une seule formule ou à une seule mode d'approche, mais que justement, la réalité est tellement riche qu'elle suscite différents types d'approches. Et qu'à partir du moment où il est capable, lui, de discerner la réalité dans toute sa richesse et sa complexité, il découvrira aussi qu'autour de lui, mais aussi en lui, il y a un certain nombre de désordres qui sont là. Et là, il aura besoin de sa volonté, si je puis dire, pour rétablir l'ordre. Mais pas à la manière de rétablir l'ordre d'un esclave de gendarmerie mobile, mais à la manière que fait le Christ, c'est-à-dire en aimant, en mettant l'amour là où il n'y a pas d'amour, en mettant la justice là où il n'y a pas de justice. C'est comme ça que le chrétien rétablit l'ordre, si je puis dire, l'ordre voulu par Dieu. Mais c'est quand même deux temps différents.
Ça ne veut pas dire qu'on doit tout expliquer ou...
On n'a peut-être pas tout expliqué, mais on a toujours à répondre aux questions. Parce que les questions que posent les enfants sont toujours des questions fondamentales et vous l'avez remarqué, sont beaucoup plus des questions sur l'être que sur le faire. Sur le pourquoi que sur le comment. Et au bout d'un certain temps, comme ça agace, eh bien on va leur dire ah « Non, mais attention plutôt à comment c'est fait. » Et là, on entre déjà dans une mentalité qui existe aussi, mais qui est « Voyons, comment puis-je manipuler ça? Comment puis-je utiliser ça ?» Il y a cette dimension-là. Si le monde nous est créé, donné comme moyen, il faut bien, si je puis dire, l'utiliser. Mais il y a des réalités qui ne s'utilisent pas. L'être humain n'est jamais utilisable. Comment dire en philosophie, à propos de la personne humaine, c'est là tout le débat autour de la bioéthique, mais n'est jamais disponible. Ce n'est pas un bien disponible. Parce qu'elle est sujet, elle n'est pas objet. Ça va être... Non, on n'en est pas capable, mais c'est justement le... Enfin, c'est une mission impossible, et si vous l'acceptez, c'est une mission impossible, mais c'est justement le propre de la grâce de nous faire accomplir des choses impossibles. Je veux dire par là que il faut toujours comprendre, à partir du moment où on s'adresse à l'intelligence, c'est le principe même du dialogue. C'est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du dialogue, mais il y a une prémisse dans le dialogue, c'est qu'il faut qu'on soit d'accord. Or le principe du dialogue, c'est justement qu'on n'est pas d'accord. De même que pour aimer ses ennemis, il faut avoir des ennemis. Bon. Alors, dans le dialogue que vous pouvez avoir avec ceux qui vous entourent, évidemment, si vous dites « Ah, mais vous savez, il ne s'agit pas d'utiliser ça comme le petit livre rouge de Mao, ni même comme certains justement, fondamentalistes peuvent utiliser la Bible. » Mais justement, il s'agit de vous imprégner de cela, vous-même, et puis après, dans le dialogue que vous pouvez avoir avec tel ou tel, essayer de montrer l'intelligence de ce que propose l'Église, d'autant plus que dans un premier temps, si vous dites que ce n'est pas l'Église, ça va être vous-même, et donc vous allez passer pour vachement intelligent. Donc vous avez tout à gagner dans l'histoire. Mais c'est de montrer la cohérence raisonnable de ce que l'Église avance et de ce que l'Église propose. Et ça, je crois qu'il faut toujours... Bien sûr, l'idéologie est très forte, mais... encore une fois, notre esprit est fait pour comprendre. Il faut toujours s'appuyer sur ça. Il faut toujours s'appuyer sur le désir d'être heureux. Nous avons tous en nous le désir d'être heureux. Et c'est là le premier principe de la morale, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Et ça, on ne peut pas faire. Alors, c'est sûr que C'est un test. On a l'occasion de temps en temps de faire des missions dans les milieux scolaires. Et quand je rencontre par exemple, une classe de terminale, même de collège catholique, hein, systématiquement, je leur pose la question, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est très amusant, les réponses. Alors, il y en a qui, bon, voyant le nounours drôlement habillé qui leur parle, tentent une ou deux réponses un peu pieuses, quoi. Non. Bon, mais je dis, non, c'est pas ça. Le plus important, en tout cas pour moi, c'est d'être heureux. Réaction. J'ai jamais eu cette réponse-là, jamais. Réaction. Oh oui, c'est évident, ouais. Ah ben, mais c'est tellement évident que spontanément, vous ne l'avez pas dit. Ça veut dire que le monde moderne a réussi à vous donner honte de votre désir d'être heureux. Évidemment, parce que le monde ne peut pas vous rendre heureux. Donc il faut mieux nier une question, hein, que de risquer une question dont on n'a pas la réponse. Mais curieusement et paradoxalement, et je crois que pour ça ces temps de crise sont très intéressants, c'est dans le désert qu'on ne peut pas nier l'existence de l'eau. Hein, et on peut se remplir la bouche de sable en disant « Ah, ça me désaltère !» Ça ne désaltère absolument pas. Mais ça, qu'est-ce qu'il faut tout ça, le seul moyen, c'est un vrai dialogue, c'est-à-dire c'est une amitié, tout simplement. Hein, et la charité, c'est une forme d'amitié. Donc vous n'allez pas demain, lundi, arriver dans votre bureau, vous juchez sur une chaise en disant « j'ai un truc nouveau à vous annoncer hein, ». Parce que là, vous faites... Ou alors, et ça c'est beaucoup plus... quand je parlais du marketing, mais il y a ça, parce que ça c'est une grande tentation du christianisme actuellement. Comme on est moins, hein, on a vraiment l'entreprise bat de l'aile, aucun des objectifs n'ont été atteints, on est en réduction, etc. Hein, et ben, l'idée c'est de dire, ben, au fond c'est de gagner le monde sur son propre terrain, et ça marche jamais. Et ça c'est un truc permanent, quand les cathos font ce pourquoi ils ne sont pas faits, ils le font moins bien. Donc c'est-à-dire qu'il y a une manière d'être original du chrétien dans ce monde qui est celui-ci. C'est pas dire qu'il ne faut pas utiliser des moyens techniques, il ne faut pas évangéliser, c'est pas ce que je dis. Mais notre chemin d'évangélisation, c'est proposer cette amitié, c'est proposer cette lumière. C'est pas essayer de gagner des adhérents. Est-ce que ça... Mais la fatigue pour le chrétien, mais encore une fois, c'est pas encore une fois comme un discours idéologique, mais c'est l'idée, c'est pas du tout de dire, ben oui, puis ce qui est marqué là, c'est vrai. C'est de lire ça et de dire, mais comment ça m'éclaire sur la réalité que j'ai en face des yeux, hein. L'évangile, c'est une lumière qui m'est donnée. Une lumière, ça me fait apparaître la réalité mieux que je ne la voyais avant. Oui ? Non, non. Ah, si, je le pense ça sérieusement. Non, quand je veux dire que le monde ne peut pas nous rendre heureux, ça veut dire simplement que mon désir d'être heureux est infini. Et que rien dans ce monde, même le plus merveilleuse des femmes ou le plus merveilleux des maris, ne peut accomplir complètement mon désir d'être heureux. C'est-à-dire qu'il y a en moi quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu seul. Alors le reste, on peut tout le monde aime, comme dit Aristote, hein, sans véritables amis qui accepteraient de vivre, hein, tout le monde adore aller au cinéma avec des copains et prendre une bonne bière après. Hein, ce qui, pour moi, me rapproche le plus de l'idée du paradis. Bon, mais ça ne comble pas complètement mon désir d'être heureux. Hein, en ce sens, c'est tout à fait exact la phrase de Saint-Ex, quand il dit « aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. » C'est-à-dire, regarder vers une destinée qui, elle, est infinie. Hein, le monde aura beau tout m'offrir, et même s'il m'offre tout, hein, c'est-à-dire, je prends un petit peu la promesse que fait le démon au Christ au moment de la tentation, hein, et bien, même ce monde-là n'est pas capable d'accomplir mon désir d'être heureux. Hein, parce que, comme dit génialement Blaise Pascal, il y a un infini entre le monde des corps et le monde des esprits, et il y a encore un infini à la puissance infinie, enfin, il dit beaucoup mieux que ça, entre le monde des esprits, le monde et l'ordre des esprits, pardon, et l'ordre de la charité, qui est Dieu lui-même.
Ça ne nous empêche pas à certains moments de nous sentir heureux et d'être.
Bien sûr, oui, comme je disais. Oui. Mais on ne peut pas s'en contenter. Parce que nous sommes faits pour une autre lumière. Hein, comme Zégui de la Rigaud dit, notre cœur est parfois lourd de toute la nostalgie du ciel. Alors, c'est dit de façon un peu. Comment dire. Poétique, et voilà, mais c'est très vrai. Comme dit aussi le père de Grand Maison dans sa très belle prière au mari, donnez-moi un cœur blessé dont la blessure ne se guérisse qu'au ciel. Non, ça vous semble? C'est qu'on a des satisfactions, on a des... Mais, encore une fois, ce que nous propose le monde est trop limité. On en reparle dans 50 ans, hein?